Voilà, bonsoir Bruno et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme et merci à tous ceux aussi qui viennent régulièrement le premier jeudi de chaque mois pour écouter cette émission.
Voilà Bruno, donc je vous laisse l'antenne pour ce temps passé donc avec vous et Maria Valtorta.
Oui, en bonne compagnie, non pas moi, mais Maria Valtorta, une mystique pour ceux qui en auraient entendu parler ou ne la connaîtraient pas, donc une mystique italienne des années 40, 45, enfin, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, assise dans son lit paralysée, voit l'Évangile, voit la vie de Jésus et écrit toutes ces pages absolument magnifiques qui nous sont transmises, traduites de l'italien dans les années 70 et qui sont venues jusqu'à nous. Aujourd'hui, en 26 langues dans le monde, cette œuvre se répand toujours plus. Alors, chers auditeurs, vous entendez des gens pour Maria Valtorta, contre Maria Valtorta autour de vous, très certainement, peut-être indifférents, certains qui ne la connaissent pas. Eh bien, il est vrai que cette œuvre fait l'objet de contradictions. D'ailleurs, de tout temps, toujours dans l'Église, dès que la révélation avance, dès que le Seigneur lui-même s'est incarné, eh bien, il a fait l'objet de grandes contradictions. Et on aime dire, d'ailleurs, c'est une expression qui revient assez souvent dans nos discussions de croyants, eh bien, nous aimons dire, s'il y a du combat, peut-être que c'est un signe que Dieu est là. Alors, ce n'est pas le seul signe, parfois il y a du combat, justement, mais pour d'autres raisons. Mais là, avec l'œuvre de Valtorta, oui, nous croyons, nous prétendons parler d'une œuvre qui est vraiment de Dieu, une œuvre divine, une œuvre qui vient de Jésus lui-même, que Maria Valtorta a vu, qu'elle a pu contempler, qu'elle a pu décrire, qu'elle a pu écouter et qu'elle a pu nous redonner à travers ses écrits. Pourquoi ? Malgré les différentes détractions qu'on peut entendre autour de nous, malgré peut-être les réticences et parfois les hommes d'église même qui la contredisent, eh bien, l'œuvre a les critères d'une œuvre divine. La première, les vertus de la personne qui l'écrit. La deuxième, le texte qui est conforme à la révélation publique. En tout cas, pour ce qui est des dogmes. Après, les textes de Maria sont tellement précis qu'on peut les discuter, on n'aime pas, mais elle respecte parfaitement l'enseignement de l'Église catholique. Le peu de contre-arguments qu'on entend dans ce domaine, à chaque fois, les phrases sont extraites de leur contexte. Mais quand on les replace bien dans son contexte, elles le sont. Et enfin, et surtout, le dernier critère, à savoir les fruits. Ceux qui connaissent cette œuvre, ceux qui lisent l'Évangile, celle qui m'a été révélée, ou qui l'écoutent, d'ailleurs, elle est enregistrée en audio, hein, on peut l'écouter, c'est pour ma part ce que je fais dans les journées bien remplies. J'ai peu de temps de lire, mais le temps d'écouter, le matin, le soir, donc j'écoute cette œuvre en voiture. Eh bien, nous constatons que cette œuvre produit des fruits dans nos esprits d'abord, hein, par la formation, la doctrine, et ensuite dans nos cœurs, puisqu'on est porté à aimer beaucoup plus le bon Dieu et la Sainte Vierge, et enfin dans nos vies, puisque le peu de bien qu'on peut faire, eh bien, on le puise dans cette contemplation des évangiles et l'exemple parfait de Jésus, parce qu'on ne peut pas le puiser ailleurs. Il n'y a que le Seigneur qui peut lui-même nous montrer dans sa perfection, eh bien, la manière dont il faut voir les choses. Vous savez, nous, les humains, on a toujours tendance à matérialiser, à intellectualiser, à nous accaparer la connaissance, la vie, les explications des choses. Eh bien, non, c'est à la lumière de Jésus, l'humilité et évidemment la simplicité avec laquelle le Seigneur nous enseigne qui doit être notre modèle. Et notre manière de vivre, puisque c'est l'imitation de Jésus-Christ, pour reprendre un titre d'un livre célèbre, qui est notre voie vers le ciel. Alors, je vais vous faire un aveu. Il y a une demi-heure encore, je pleurais. Voilà. Ça peut se dire, ça peut ne pas se dire, je le dis. Je lisais encore le témoignage, plutôt le raisonnement d'un prêtre contre l'œuvre de Maria. Qui en faisait un article public. Et donc, beaucoup de personnes vont être éloignées par cet article. Je ne vais pas citer le prêtre, par charité chrétienne. Et j'ai lu une bonne partie de cet article qui dénigre Valtorta, qui fait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé un roman, avec grand effort intellectuel. et qui sort un certain nombre d'arguments. C'est très argumenté, c'est bien argumenté, il faut le reconnaître. Et ma conclusion est la suivante, oui, mais ce sont des arguments humains. Humains. L'œuvre de Malatorta, pour sa défense, a fait l'objet de recherches par une quarantaine de spécialistes dans tous les domaines, archéologie, topographie, littérature même, etc., psychologie, et qui laisse entendre, et ça ce sont des gens qui connaissent ce qu'ils l'ont étudié, que l'œuvre ne peut être faite de main d'homme. C'est impossible. Hein, en découvrant des bâtiments qui, 30 ans, 50 ans après la mort de Malatorta, etc., etc. Les arguments sont nombreux, je ne vais pas les répéter, les auditeurs qui connaissent l'œuvre en ont entendu assez. Voilà. Et la lecture de cette œuvre a engendré non pas des dizaines de personnes qui sont venues à la foi et au sacrement de l'Église, puisque c'est une manière de juger l'œuvre. Hein. Jésus dit très clairement dans les évangiles canoniques, très clairement qu'on juge l'arbre à ses fruits. Si on n'aime pas l'arbre, eh bien tant pis, on s'en éloigne. Si on aime l'arbre, on s'en approche. Mais on ne va pas juger l'arbre parce qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ou parce que dans notre esprit, ça ne correspond pas à ce qu'on veut. On va juger l'arbre au fruit, c'est-à-dire au fait s'il nous éloigne de Dieu ou s'il nous approche de Dieu. Et là, je ne parle pas de dizaines ni de centaines, mais des milliers, des dizaines de milliers de lecteurs. Depuis 20 ans que nous avons créé l'association en France, nous en avons rencontré un ou deux milliers. Mais nous savons, dans le monde et dans les contacts que nous avons à l'étranger et ailleurs, que ce sont des dizaines de milliers de lecteurs, et bien plus encore, qui ont été transformés par cette lecture. Et quand ils disent transformés, cela veut dire qu'ils ont pu, ou cela les a aidés à pratiquer les vertus théologales. Hein, c'est la fin, notre ultime fin, nous qui sommes animés, nous sommes des êtres vivants, mais qui avons un cran de plus que les animaux. Nous, les humains, nous avons une âme, nous avons une partie de nous qui est éternelle, la partie la plus profonde, la plus importante, qui embrassera Dieu ou qui s'en éloignera définitivement selon ce que nous aurons choisi. Dieu respecte notre libre arbitre et cette œuvre de Malatorta contribue de manière magistrale. Et là, j'en parle en tant que spécialiste depuis 20 ans que je préside l'association Malatorta, que je témoigne, que je rencontre des gens un peu partout lors des conférences, un peu partout en France et ailleurs. Et eh bien, je vois des milliers de gens qui s'approchent du bon Dieu. Je parle de ceux qui ont lu. Je vois aussi des dizaines de gens qui la critiquent. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils n'ont pas lu attentivement. Alors, voilà, je vais vous donner un petit passage pour nous qui aimons l'œuvre de Malatorta. Un petit commentaire de Jésus sur l'honnêteté. C'est très beau. Et ceux qui veulent savoir ce qu'il en est, ben, qu'ils écoutent, et ils jugeront par eux-mêmes. Être honnête, dit Jésus, celui qui dit « J'observe la loi non pour être loué par les hommes, mais par fidélité à Dieu. » Être honnête, celui qui dit « Je marche à la suite du Christ, non pour les miracles qu'il fait, mais pour les conseils de vie éternelle qu'il me donne. » Est honnête encore celui qui dit « Je travaille non par recherche de profit, mais parce que le travail a été établi par Dieu comme moyen de sanctification, car il a le pouvoir de former, de mortifier, de préserver, d'élever. » Pardonnez-moi, permettez-moi de faire une parenthèse. Mais regardez la densité de ce texte. En quatre mots, Jésus résume les bienfaits, par exemple, du travail que je viens de nommer. Hein. Comme moyen de sanctification, le travail, car il a le pouvoir de former, de mortifier, de préserver et d'élever. Mais oui, le travail forme. Sans le travail, nous serions des passifs, des oisifs, des idiots, peut-être. Hein? Le travail nous forme constamment. Nous devons faire des efforts pour comprendre, quel que soit le domaine d'activité, pour assimiler, pour restituer. Voilà. Le travail mortifie. Mais bien sûr, c'est dur. Qui n'a pas senti à son travail la difficulté, la peine, l'humiliation parfois même, et on doit travailler. Si on avait le choix, probablement beaucoup arrêterions de travailler. Mais on doit, on est obligé, parfois c'est mortifiant, il faut y aller, il faut gagner un salaire, il faut bien vivre, survivre. Le travail a le pouvoir de préserver. Oh oui, regardez, qui d'entre nous n'avons pas déjà expérimenté d'être oisif en vacances ou trop, trop inactif? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a des idées dans toutes sortes de domaines. On est tenté d'ennuyer les gens, on est tenté de faire des choses qu'on ne ferait pas, on est tenté de. Il faut distinguer le temps de repos de l'oisiveté. Donc le travail nous préserve de beaucoup de choses, de beaucoup de maux. Malheur à celui qui ne travaille pas. Et il y a suffisamment d'exemples qui nous entourent, de personnes qui ne souhaitent pas travailler, de fainéants. Il y en a. Eh bien, regardez comme la chute est visible à tout point de vue, et surtout dans les vertus. Il n'y a pas besoin de donner d'exemples précis. Tout le monde connaît ça, soit dans sa propre vie, soit autour de lui. Donc de préserver, et Jésus dit d'élever. Il termine, le travail a le pouvoir d'élever. Oh oui, il élève. Il y a beaucoup de choses que nous ne ferions pas si nous n'étions pas obligés de travailler. Et finalement, ça élève de toutes les manières, moralement, socialement, et puis devant Dieu. Devant Dieu, car on est fier, on peut dire à Dieu, on a fait ci, on a fait ça, et Dieu nous en est reconnaissant. Etc. Vous voyez donc quelques mots dans cette œuvre de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, donc où Jésus donne un enseignement, paragraphe 108,5 dans la nouvelle édition. 108,5, le tome 2. Je travaille, dit Jésus, hein, pour pouvoir aider mon prochain. Comme c'est beau. Voilà. Donc l'honnêteté, hein, est honnête, je reprends le début, est honnête celui qui dit je travaille pour pouvoir aider mon prochain. Bon oui, il y a de nombreux travaux qui sont des aides. C'est une motivation, ça nous motive. Moi, je vois encore beaucoup de jeunes qui partent dans des métiers pour rendre service. On le voit, parce qu'ils veulent rendre service, ils veulent aider leurs prochains. Je travaille pour faire resplendir des prodiges de Dieu qui transforment un grain minuscule en touffe d'épi, une graine de raisin en grande vigne, Dieu, un noyau en arbre qui fait de moi, et je ne suis qu'un homme, un moins que rien tiré du néant de par sa volonté, eh bien, qui fait de moi ce moins que rien, son aide pour l'œuvre incessante de perpétuer le blé, les vignes, les fruits et de peupler la terre des hommes. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Ces phrases de Valtorta. Alors on n'aime pas, on peut critiquer, hein, Valtorta. Mais alors on lit autre chose. Pourquoi empêcher les hommes de lire cette si belle œuvre? Regardez là, en 10 lignes, on a un programme de vie entier pour les travailleurs. Et qui termine par la participation à l'œuvre de Dieu. Jésus continue. Il y a des hommes qui travaillent comme des bêtes de somme, mais sans autre religion que celle-ci, augmenter leur richesse. On en voit beaucoup, et c'est une tentation aujourd'hui. Remarquez ce que Jésus en dit, hein, des bêtes de somme. Alors quand on est tenté de faire ça, augmenter ses richesses, on va avoir un peu plus. Avoir 3 voitures, avoir 2 maisons, 3, avoir ci, avoir ça, eh bien, on est comparé par le Christ, par notre Dieu, hein, Créateur et Sauveur, et le Verbe incarné, nous sommes comparés à des bêtes de somme. Donc, puissions-nous désirer la pauvreté? C'est une véritable vertu. La pauvreté évangélique consiste à travailler pour avoir ce qu'il faut, et donner notre surplus, si Dieu le permet. Leurs compagnons, plus dépourvus, meurent-ils de privation et d'épuisement à côté d'eux? Les enfants de ce pauvre homme meurent-ils de faim? Qu'importe à celui qui ne pense qu'à accumuler des richesses? Il en est d'autres encore plus durs qui ne travaillent pas, mais font travailler et entassent des richesses en exploitant la sueur des autres. D'autres encore dilapident de ce que par cupidité ils tirent des efforts d'autrui. Vous voyez, Jésus fait un crescendo, un très bel enseignement sur la descente, hein, la vie. D'abord celui qui adore la richesse, ensuite celui qui fait travailler les autres à son profit et qui accumule des richesses, et enfin celui qui fait travailler les autres à son profit, qui accumule des richesses, et en plus les dilapide. Voilà, c'est la versité complète. Ça nous paraît pourtant naturel, hein, quand on regarde le monde autour de nous. Ben voilà un bon remède dans cette lecture. Voilà un remède quelque chose qui va nous soigner, nous guérir, remettre notre esprit dans la bonne direction, le restructurer dans ses vérités et peut-être nous sauver grâce à cette thérapie. En vérité, dit Jésus, pour ceci, ce n'est pas un travail honnête. Et ne prétendez pas. Pourtant, Dieu les protège. Non, il ne les protège pas, ceux qui accumulent des richesses. Ils ont beaucoup triomphé actuellement, ils seront bientôt frappés par la sévérité de Dieu. En ces temps ou dans l'éternité, il leur rappellera le commandement « Je suis le Seigneur ton Dieu, aime-moi par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. » Si ces paroles résonnent pour les foudres, elles seront plus redoutables que les foudres du soleil. Et Jésus continue. Nombreuses, trop nombreuses sont les paroles que l'on vous dit. Moi, je vous dis que celles-ci. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Et Jésus s'arrête. Il continue. Elle ressemble au travail du printemps pour la vigne qui permettra au cep d'être fécond. L'amour de Dieu et du prochain, c'est la herse qui nettoie le sol de ces mauvaises herbes que sont l'égoïsme et les mauvaises passions. C'est la pioche qui creuse un cercle autour du pied de vigne pour l'isoler des herbes en parasites et le nourrir des eaux fraîches de l'arrosage. C'est la serpette qui supprime les pousses superflues pour condenser la sève et la diriger là où le fruit doit se former. Vous l'avez compris, Jésus parle à des paysans. C'est le lien qui serre la plante contre le tuteur solide qui la soutient. Et enfin, c'est le soleil qui fait mûrir les fruits de la bonne volonté et les transforme en fruits de vie éternelle. Aujourd'hui, vous êtes joyeux parce que l'année était bonne, les boissons riches, les vendanges abondantes. Mais en vérité, je vous dis que cette joie que vous éprouvez est plus petite qu'un grain de sable en comparaison de la joie sans mesure que vous éprouverez quand le Père éternel vous dira « Venez, mes sarments féconds, greffés sur la vraie vigne. Vous êtes prêtés à tout, même quand c'était pénible, pour donner beaucoup de fruits. Maintenant, venez à moi, riche des doux sucs de l'amour envers votre prochain, et moi, épanouissez-vous dans mes jardins pour l'éternité tout entière. Tendez à cette joie éternelle, attachez-vous fidèlement à la poursuite de ce. Avec reconnaissance, bénissez l'Éternel qui vous aide à l'atteindre, bénissez-le pour la grâce de sa parole, bénissez-le pour la grâce d'une bonne récolte. Aimez le Seigneur en reconnaissant ses bienfaits et soyez sans crainte. Dieu donne 100 pour 1 à ceux qui l'aiment. Jésus aurait fini, mais tous se mettent à crier bénis-nous, ta bénédiction sur nous. Jésus se lève, ouvre les bras et dit d'une voix de tonnerre, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et vous prenne en pitié, que le Seigneur tourne, etc. Et la foule, la petite foule, pousse un cri de joie, acclame le Messie. Et la vision de Marie Altorta continue. Alors, chers auditeurs, que tire-t-on de cet enseignement? Pensez-vous qu'on peut lire une œuvre comme celle-ci? Pensez-vous que c'est profitable pour l'âme? Alors, je vais vous lire un autre extrait de l'épître de saint Paul. Je crois que ça va être très court, parce que je vois que le temps passe vite. Et puis ensuite, je terminerai par ce que dit l'œuvre de Marie Porta sur la maternité de Marie, mère de l'Église, en tant que mère de l'Église, car elle a plusieurs formes de maternité. Explique Monseigneur Rochini. Pardonnez-moi, le père Rochini n'a pas été Monseigneur. Père Rochini, un Italien mort en 1977, mais qui a fait une très très belle œuvre pour commenter la Vierge Marie d'après l'œuvre de Marie. Nous reconnaissons parfaitement la fidélité à tous les enseignements de l'Église, dit-il. Il était directeur du Marianum quand même à Rome, hein, je le rappelle. Donc, la théologie mariale de l'Église, et il disait lui-même que de tous les livres qu'il avait lus, c'était l'Évangile de Scapula Interrelé qui lui avait donné une idée la plus précise, la plus belle, la plus vivante et fidèle de la Sainte Vierge. Donc je vous invite à faire la même chose que lui, vous plonger dedans. Donc en attendant ce petit commentaire de la Sainte Vierge, un bref extrait de la leçon sur l'Épître de saint Paul aux Romains. L'homme qui n'a pas la science proportionnée à son état n'a pas d'amour ordonné, ni pour Dieu, ni pour les créatures, quelles qu'elles soient. Il tombe dans diverses idolâtries et dans la triple concupiscence. Vous voyez, hein, Jésus explique qu'il y a une science qui est proportionnée à notre état. Donc chacun d'entre nous, nous devons avoir une certaine connaissance, nous efforcer de connaître certaines choses. Il défigure la religion elle-même dans un mélange hybride de pratiques coupables, coupables autant sinon plus que celles que le Verbe divin a condamnées chez les pharisiens. Alors ça, on le voit en nous, je me mets dans le lot, et on le voit aussi autour de nous. Il faut enlever, arracher, c'est au fil de nos formations, on découvre qu'il y a des choses dans les pratiques qui sont effectivement plutôt humaines, ou des choses qu'on nous a apprises, qui correspondaient pas forcément à ce que le bon Dieu demandait. Car lui, le chrétien, a reçu avec le baptême le don infini de la grâce. Il ne se connaît pas lui-même, et par conséquent, il confond son plaisir avec le respect du divin vouloir. Voilà, le grand péché. Notre plaisir est ce que veut Dieu. Il déforme en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Il détourne les dons reçus pour son bien. Il les utilise pour faire du mal aux autres et pour s'en faire à lui-même. Il fait l'aumône, ce n'est pas par miséricorde pour les malheureux, mais pour en recevoir des louanges humaines. S'il scrute les mystères de l'univers, il le fait pour être glorifié par les hommes, non pour donner la gloire au Créateur. De cette façon, ses actions perdent le parfum qui les rend saintes au nom de Dieu. Il récolte sur terre son profit transitoire, mais froid et grincement de dents l'attendent, selon l'expression du Verbe, là où les apparences ne trompent plus, mais comptent seulement la vérité des actions humaines. Voilà ce petit extrait rapide du commentaire de l'Épître de saint Paul aux Romains. Vous voyez, quelle est l'intention? Oh, regardez. C'est un donné à Marie-Valtorta. Quel est le parallèle entre cet extrait et le précédent? Vous voyez, c'est toujours l'intention. Avec quelle intention on fait les choses? Quelle intention, souvenez-vous, on fait le travail? Avec quelle intention on fait le monde? Avec quelle intention on fait les prières? Ben voilà. Donc il faut travailler dans le secret, par amour pour mon Dieu et par amour pour les autres. Voilà, avec ça déjà, ça résume, comme le dit Jésus hein, dans l'évangile qui m'a été élevé, ça résume tout. Vous avez trop de mots, Jésus, trop de textes qui parlent de tout ça. Et Jésus résume et dit « Aimez Dieu, aimez le prochain », voilà tout l'enseignement qu'il faut retenir et pratiquer. Alors maintenant, je vais vous lire un dernier petit extrait sur la Vierge Marie dans le Val-d'Or. Avant d'attaquer ce petit extrait, je donne rapidement quelques nouvelles de l'association. Nous avons bien avancé la reconstruction de la pièce de la chambre de Mère-Valtorta, ici en Bretagne, ici dans notre local. Nous reconstituons la chambre de Mère-Valtorta pour procéder à des tournages. Le tournage donc d'un film sur Mère-Valtorta, Miracle, qui sortira au cinéma, un documentaire qui sortira au cinéma. C'est la fin de l'année, ici, et qui permettra de faire connaître en vérité. On autour d'elle, avec un certain nombre de témoignages et de personnes de bonne volonté qui ont eu des fruits, puisque je vous rappelle, l'Église juge et le Seigneur nous dit de juger les choses à leurs fruits, ont eu et ont persévéré en eux à la lecture de l'Évangile. Donc, un petit tournage qui se termine dans les mois qui viennent, là, une fiction reconstitue la salle où on va voir Marie-Valtorta assise dans son lit. Des personnages, quelques personnages les plus célèbres qui ont fait beaucoup de monde, et puis des interventions comme un documentaire de spécialistes et des reportages en personne qui nous voyageront dans de ce documentaire et elle verra constater que cette feu a dans son lit à 2 000 km de la place. Voilà, pourtant, vous êtes parfait tout. Qui semble pour nous une possible interdépendance. Du supplémentaire parce qu'il s'agit de simplement la beauté de l'essai des communs. L'âme droite, pas de ce qui l'élève ou qui l'abaisse, qui l'apporte. La mère Marie. Elle est mère. Elle est mariée. Elle donne la vie sur la terre, mais la vie surnaturel de la grâce divine. Pardon. Ah, j'ai fait une grosse erreur. Ce n'est pas la vie naturelle, mais la vie surnaturelle de la grâce divine. La nouvelle vie, celle-ci a commencé avec Marie. La vie naturelle commence avec Marie. J'ai dit au livre 9 de l'Évangile qui m'a été révélé, paragraphe 309. Marie nouvelle Ève, poursuit-il au 308, donc c'est par 8 à 10, Marie nouvelle Ève a eu de Dieu, elle aussi, un nouveau fils à la place d'Abel, tué par Cain, la Genèse. Mais elle ne l'a pas eu en une heure de jouissance brutale qui engourdit la douleur. Elle l'a eu en une heure de douleur totale au pied d'un gibet, parmi les râlements du mourant qui était son fils, parmi les imprécations d'une foule déicide et dans une désolation radicale et totale, car Dieu lui-même ne la consolait plus. Évidemment, ce texte s'avance au pied de la croix. Et c'est là que Marie est devenue mère. Marie, alors dit le divin auteur à la voyante, hein, votre mère, non dans un sens symbolique mais réel, parce qu'elle est mère, celle qui donne la vie, et Marie vous a donné la vie, et par conséquent, l'Esprit Saint. C'est-à-dire celui qui maintient la vie en vous, et plus un, des porteurs du Christ, et même d'autres Christ, selon la phrase de saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le plus petit s'éclipse devant celui qui est plus grand, est absorbé par lui, et le plus grand domine et resplendit. Anéantissant le plus petit, non par un abus oppressif, mais par l'élever à un degré supérieur, en l'assumant, en rapprochant l'insuffisance de la plénitude, la faiblesse de la force et l'étroitesse de l'infini. Vous voyez, comme c'est beau, comme c'est fini, nous explique ce qui se passe quand on communie avec Dieu. Supposons qu'un roi prenne avec lui sur son trône un enfant pauvre, lui, trouvé sur la route, et qu'il lève pour en faire son héritier, et qu'il le fasse acclamer par des foules en le recouvrant de son manteau royal. Ce pauvre petit enfant, les foules ne pourraient pas se moquer de lui, parce qu'elles ne le voient pas. Elles ne voient que le roi, dans sa majesté, alors que le petit enfant se sert tout heureux contre le roi très bon, au point de disparaître dans les riches vêtements royaux. Voilà le symbole le plus exact de cette condition du chrétien devenu un autre Christ. Il n'en est pas autrement de Marie, enceinte de Dieu, se sentit, elle, créature, anéantie par le tout enfermé dans son sein. Elle, mais celui qui était en elle, la voyait, la portait, l'offrait à la vénération des hommes. Alors, en vous aussi, chrétiens, l'Esprit met la semence du Christ, et si votre volonté seconde la volonté de l'amour, le Christ prend vie en vous, et vous devez, unis à lui de manière à n'être qu'une seule chose avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit qui les unit, comme cela fut demandé par Jésus dans la prière de la dernière scène, afin que les trois se font qu'un, ainsi une demeure éternelle, je sais de l'amour, la gloire de Dieu et de la prière, la récompense de ceux qui ont accueilli la liberté et la parole, ont vécu dans la charité avec Dieu, en rendant témoignage. Vivant, vie parfaite, selon les commandements et l'exemple de Jésus. Tous ces enseignements qui tiennent en quelques mots, vous voyez, pour tous ceux, je répète, qui ont vécu dans la charité et la vérité, notre devoir, notre destinée, c'est bien difficile. Je ne prétends absolument pas en être un exemple, moi qui vous parle, mais je lis ce que Jésus nous demande de faire. Qui est la récompense de ceux qui ont accueilli la lumière et la parole. Il faut d'abord accueillir la lumière et la parole. Dans ces enseignements de Marie Laporta, nous avons, encore une fois, beaucoup de personnes témoignent, nous avons un enseignement qui nous aide à assimiler cette lumière et cette parole, un enseignement splendide, magnifique. Je complète la présentation de l'évangile qui m'est révélé par, souvenez-vous, les cahiers, hein, d'autres enseignements nombreux dans les cahiers de 43, 44 et 45 à 50. L'œuvre de l'évangile qui m'est révélé ne représente que la moitié de ce qui est écrit dans la Laporta. 4800 pages, soit 2, donc soit 13 400 d'ailleurs, plus que ça encore, parce que 13 400 pages de cahiers dans 122 cahiers. Elle a écrit en une petite dizaine d'années, enfin, cette année active, et 3, beaucoup moins, 140, 50. Et, Et donc, cette œuvre aide beaucoup. C'est vraiment une œuvre magistrale, comme le répétait l'abbé Pierre Lefebvre. C'est la somme théologique narratif. Lui, qui est spécialiste de saint Thomas d'Aquin et qui connaît bien les deux œuvres. Il dit que toute l'œuvre de saint Thomas d'Aquin est remise en narratif. Bon, quelques chiffres rapidement que je vous rappelle pour terminer. Il y a quand même 500 sites géographiques qu'elle décrit parfaitement, alors qu'elle a été paralysée, je vous le rappelle. 270 qui sont parfaitement désignés. Donc, évidemment, il faut croire au mirage pour s'imaginer que cela est possible humainement. Possible. Elle décrit des centaines de monuments, évidemment, qui ont été découverts pour beaucoup après sa mort, et surtout après toutes ces descriptions qu'elle a faites. Alors, elle a une connaissance de certaines villes, dont Jérusalem, qui est absolument parfaite, et d'après des spécialistes, comme le professeur Dreyfus, par exemple, hein, qui est un dominicain géologue. Une description des us et coutumes de la vie de la Palestine au temps de Jésus, hein, dans l'évangile tel qu'il a été révélé. Marie Laporta a des connaissances même en géologie, qui dépassent complètement les possibilités humaines. Elle fournit 4000 détails spatio-temporels vérifiables par des logiciels d'astronomie. Ça, ce sont toutes les études de Jean Olavé, etc., etc. On n'en finirait pas d'énumérer tout ce qu'il y a dans cette œuvre absolument extraordinaire.
Voilà, merci, merci beaucoup, merci Bruno Périnet pour voilà, cette nouvel enseignement sur Maria Valtorta.
Plaisir. J'espère que nombreux lecteurs pourront, vous savez, hein, cette phrase est assez célèbre, goûter et voyez, quoi.
Oui.
De nombreux lecteurs pourront acquérir un livre, emprunter un livre, découvrir l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta pour s'en faire une idée personnelle. Beaucoup de personnes ont vraiment ont vécu ce qu'a vécu par exemple une mère de famille qui m'a dit dernièrement, il y a un avant et un après. Elle m'a dit, mais j'ai toujours été dans l'église, j'ai toujours prié, j'ai toujours vécu une vie sacramentelle, mais il y a un avant et un après. Je vois maintenant, je comprends dans les détails ce que Jésus demande, c'est précis, et ça m'aide beaucoup pour ma vie spirituelle. Et si vous n'aimez pas, ben,
En tout cas, merci, merci beaucoup pour aussi pour l'ensemble hein, de ces émissions depuis septembre l'année dernière, en 2020, pour parler de Maria Valtorta et mieux la faire connaître à nos auditeurs. Voilà, maintenant il faut se mettre à lire, exactement.
merci, au revoir.
Merci Bruno Périnet, au revoir.